Bonjour, j'aimerais consacrer cet épisode à un sujet un peu technique, mais qui intéressera des acteurs du changement, c'est celui de la complémentarité entre les démarches d'agilité à l'échelle type SAFe avec les démarches d'agilité organisationnelle telles que la gouvernance adaptative. Alors, très rapidement, pour faire la différence entre les deux, l'agilité type SAFe, c'est l'agilité dans les projets à l'échelle. Donc, c'est un framework. SAFe, c'est un framework qui propose des principes, des rituels, un langage, des outils pour produire des résultats, pour fonctionner en équipe projet, sur des projets digitaux en général, de manière efficace, dans un esprit test and learn. Voilà, ça c'est l'agilité, c'est SAFe. La gouvernance adaptative, c'est une démarche d'auto-organisation qui parle d'agilité organisationnelle. Donc elle rapatrie des outils, des principes, certaines méthodes de l'agilité projet, qu'on retrouve dans SAFe, dans Scrum, mais aussi des outils ou des méthodes qui viennent de Lean et surtout et beaucoup de l'intelligence collective, de la sociocratie et bien sûr de l'holacratie dont la gouvernance adaptative s'est beaucoup inspirée. Donc cet épisode, vous allez voir, est un peu particulier. Il a été enregistré en fait en 2020. Il n'a pas été publié. C'était enregistré avant le lancement du podcast et c'est un interview que j'avais fait dans l'idée de faire un podcast un jour sur un sujet, sur une question que beaucoup posent. Comment ces deux outils, ces deux frameworks, agilité projet, agilité organisationnelle, SAFe, GA, comment ces deux fonctionnent? Et donc, cet épisode est une réponse à cette question que beaucoup se posent. Alors, vous allez entendre deux personnes très importantes, Fabienne Pouilleute et Bruno Millero. Ils occupent chacun des fonctions managériales dans lesquelles ils sont au cœur de la transformation agile d'Orange. Et tous les deux ont déployé et maîtrisent parfaitement à la fois SAFe et la gouvernance adaptative, la GA. Donc, dans cet épisode, ils partagent leur expérience et leur vision de la complémentarité de ces deux approches. Voilà, c'est parti, je vous retrouve à la fin.
Seulement d'aller un cran plus loin, mais presque d'humaniser la machine. Il faut voir que SAFe, en fait, ça vient du Lean, hein, tout ça. On est presque dans un modèle très industriel et tout est décrit et de manière assez précise. Or, la réalité de l'humain, en fait, et la réalité de chaque entreprise qui est différente, elle doit être ajustée. Or, moi, je me rends compte, hein, pour avoir implémenté plusieurs trains SAFe, que quand on essaie de mettre ça by the book, ben, c'est faire rentrer des ronds dans des carrés. Et bien souvent, ça se traduit par de la souffrance au travail, etc.
Welcome to Pyramid to Circles. Pyramid to Circles. This podcast is for the leaders and for the change makers who have the goal of evolving their company
towards more collective intelligence, more empowerment,
more self-organization, but asking themselves how to make this happen. Where to start and how to get inspiration from others.
Alors, effectivement, moi j'ai une expérience en gouvernance adaptative puisque j'en fais depuis 2015, à la fois en tant que facilitatrice, secrétaire, voire plus récemment sur lead de cercle. Et j'ai porté le déploiement sur toute une direction, en fait, qui est passée plutôt sous la base du volontariat à la gouvernance adaptative. Et puis, tout récemment, je viens de passer RTE, donc Release Train Engineer, sur le train identité numérique, côté Orange France. Donc, agilité à l'échelle, effectivement.
D'accord. OK.
Donc, le RTE est plutôt un servant leader, en fait. Un peu le coach de coach ou scrum de scrum, ça dépend comment on voit.
Scrum de scrum, on va reparler de ça, tu vas expliquer ce que c'est, scrum de scrum. Bruno, je te laisse pour te présenter, nous dire toi aussi, tu as eu l'occasion d'aujourd'hui de fréquenter les deux depuis un moment déjà.
Alors du coup, moi j'ai un background très, très manager en fait, hein, à la base et j'ai découvert la gouvernance adaptative, c'était à peu près il y a, je pense, 3 ans maintenant. Et je l'avais mise en place à la DSI au BGP, au sein de la DSI d'Orange France. Et justement, toute la mise en place en fait de cette gouvernance adaptative m'a permis à moi en tant que manager de me dégager pas mal de temps pour pouvoir faire d'autres choses, hein, parce que c'est aussi l'objet en fait de la gouvernance adaptative. Pour les managers, c'est du lâcher prise, c'est de laisser de l'autonomie aux équipes. Et donc, du coup, ça permet de faire d'autres choses. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai participé par la suite au programme Agile d'Orange France de déploiement de l'agilité, notamment de l'agilité à l'échelle, en se basant sur le framework SAFe. Et moi, je m'occupais plus particulièrement du stream qui s'appelle « Mode de fonctionnement et gouvernance ». Et à cette occasion, on a lancé ce qu'on appelle plusieurs trains SAFe et on les a accompagnés dans leur transformation. Là, dernièrement, j'ai changé en fait de poste et j'ai rejoint une organisation qui s'occupe de l'exploitation du réseau et des services d'Orange France avec la mission d'agiliser en fait cette organisation. Finalement, plusieurs volets, des volets d'agilité organisationnelle, et là, on va reparler de gouvernance adaptative, et puis sur le volet aussi de comment on s'organise pour fabriquer des produits et des services pour les clients, et là, on va plutôt parler d'agilité, en fait, de type fabrication de produits et services, et donc plutôt de Scrum ou de SAFe, suivant les tailles d'équipe à faire travailler en agile. Et dans cette direction, dans cette nouvelle direction, j'ai plutôt déployé de la gouvernance adaptative sur des programmes, de manière en fait à désiloter et puis aligner ces programmes autour d'une raison d'être, alors qu'à la DSI ou BGP, j'avais plutôt en fait déployé la gouvernance adaptative sur le volet organisationnel.
Les projets sur lesquels tu déploies ou SAFe ou de l'agilité organisationnelle, la GA, c'est sur des, ça touche combien de personnes, ça quelle juste quelle dimension pour des gens qui écoutent et qui juste pour stabiliser un peu le.
Alors quand on parle en fait, quand on parle de SAFe, et c'est important, c'est important de l'avoir en tête. On y reviendra peut-être tout à l'heure, je pense. C'est on est vraiment dans de l'agilité à l'échelle. Donc si on monte un train c'est entre 50 et 144 personnes, hein, dit le modèle. Donc on est tout de suite sur une centaine de personnes et des trains on peut en déployer. Voilà, je pense que sur le volet grand public, on en est à une dizaine de trains déjà déployés, donc ça peut représenter beaucoup de personnes. Pour ce qui est de l'endroit où je suis, en fait, aujourd'hui, ça concerne en fait, on va dire, allez, 100, 150, 200 personnes pour ce qui est de la fabrication de produits et de services et donc de SAFe. Pour ce qui est de l'agilité organisationnelle de type gouvernance adaptative, là, on doit être à peu près autour de la centaine de personnes aujourd'hui.
D'accord, ok. Du coup, peut-être qu'on peut, avant d'aller plus sur la comparaison et la complémentarité entre les deux approches, peut-être se dire, nous rappeler, c'est quoi SAFe ? Tu as parlé de train, on a parlé de Scrum, donc il y a tout un vocabulaire. Est-ce que vous pouvez juste nous redire SAFe, c'est un acronyme, c'est quoi exactement la démarche SAFe et c'est quoi les deux, trois mots de vocabulaire qu'il faut comprendre si on veut donner l'impression qu'on a tout compris de SAFe ?
Ouais. Alors, je sais pas, Fabienne, comment on fait.
Moi, l'idée de SAFe, c'est accompagner, c'est la coordination entre différentes équipes.
Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est sur une même thématique, on va dire. C'est coordonner des équipes entre elles, des équipes qui sont du coup ce qu'on appelle des feature teams. Donc, c'est aussi un nom important dans la culture SAFe qu'on va devoir coordonner ensemble pour pouvoir délivrer de la valeur au fur et à mesure.
D'accord.
Okay. Si on devait résumer.
D'accord. Donc là où on est habitué à avoir des projets agiles, avec donc tous ces principes agiles d'itération courte, de backlog, etc., eh bien là, c'est comment elles sont coordonnées ensemble, parce qu'elles sont dans une même chaîne de valeur, j'imagine, c'est ça
Exactement. Et on va traiter en fait les risques et les dépendances.
D'accord. Ok.
Ouais. Si vous voulez, en fait, le pourquoi de SAFe, ça part au départ d'un principe assez simple, hein, c'est de se dire une équipe agile, c'est très performant. Pourquoi ? Parce que c'est orienté client, parce que ça recueille du feedback client, parce que ça pose en fait de la valeur en continu en production, parce que ça autoporte en fait de l'amélioration continue et donc l'équipe qui est en général pérenne au fur et à mesure de ses rétrospectives, elle s'améliore dans le temps. Donc, du coup, en fait, et d'ailleurs, on n'a pas des projets agiles, hein, je te reprends, on a plutôt des équipes qui sont agiles et qui travaillent sur des projets. Et donc, du coup, ces équipes-là, en fait, deviennent de plus en plus performantes et sont des équipes performantes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus performant qu'une équipe performante, en fait? C'est un ensemble d'équipes performantes. Et le modèle Scrum dit, bah voilà, au-delà de 12 personnes, en fait, c'est plus possible de travailler. Donc, il faut trouver un moyen tactique, en fait. Et Safe, ce n'est finalement peut-être que ça, en fait, dans son attention au début, c'est de trouver un moyen tactique pour faire travailler plusieurs équipes agiles entre elles pour avoir quelque chose de très performant. Parce que les projets des grandes entreprises, et d'ailleurs, la plupart des grandes entreprises du CAC 40 se sont mis massivement au CEF. C'est rare qu'on puisse les sortir à 12. Ça implique tout de suite, évidemment, des équipes de plus de centaines de personnes. Il faut trouver un moyen tactique pour les faire bosser ensemble.
D'accord, ok. Et donc, on a parlé d'être un scrum de scrum, c'est quoi?
Disons que alors SAFe, ça veut dire Scale Agile Framework, et ça permet d'aller, ce que disait tout à l'heure Bruno, à des tailles de 120-140 personnes à coordonner. Le Scrum de Scrum, il n'est pas fait pour d'aussi grandes thématiques. Je dirais que c'est plutôt une cinquantaine, une soixantaine pour moi. Et après, il atteint sa limite en fait de fonctionnement.
C'est un rituel.
Là, il y a beaucoup de transverses en fait dans SAFe. Après, forcément, on utilise les grands principes de l'agilité hein, dans SAFe aussi.
D'accord.
Donc c'est là où il y a quand même du recoupement.
Et un scrum de scrum, donc c'est une réunion où en fait on coordonne les différentes ces différentes équipes.
Alors, le scrum of scrum, c'est une des. Alors moi, j'appelle plus tout ça des événements, mais des fois on utilise cérémonie. C'est plutôt un des événements de SAFe qui permet de coordonner l'ensemble des Scrum Masters sur les dépendances, sur les risques potentiels, sur les nouvelles dépendances qu'on n'avait pas vues dans le fameux programme Increment Planning, qui est la réunion phare en fait de SAFe, qui permet de réunir tous les. Alors ça dépendra des itérations de chacun, mais nous c'est toutes les 12 semaines, on réunit les 120 personnes du train.
D'accord.
Et donc, on travaille tous ensemble dans la même salle pendant 2 jours.
Pendant 2 jours, ok. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le mot cérémonie et on voit bien que pour mieux gérer du très complexe, on a besoin d'avoir vraiment des savoir-faire. Et c'est des savoir-faire qui sont assez nouveaux, enfin, c'est spécifique aussi. Mmh. Ça ne s'apprend pas, ça s'apprend. Et c'est aussi un mindset, une posture, une certaine manière d'aborder les choses. Et peut-être vous en direz quelques mots. Qui permet de le. Enfin, l'agilité, c'est un état d'esprit, c'est être et faire, c'est les deux en même temps. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus, sur le côté, l'état d'esprit, sur la culture agile, qu'on retrouve, c'est d'ailleurs une bonne transition avec la gouvernance adaptative? Parce qu'il y a des points communs, je sais pas, sur le côté, parce que c'est pas forcément. Certains outils sont peut-être proches, ou certains sont très différents, mais il y a peut-être un état d'esprit. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ouais, alors, enfin, c'est clair, hein, c'est un état d'esprit, hein, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans le modèle SAFe, qui est de l'agilité à l'échelle, et qui est de l'agilité à l'échelle, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire on va essayer de coordonner de grosses équipes entre elles, mais il faut le prendre aussi dans sa dimension d'entreprise, c'est-à-dire que le framework SAFe décrit aussi la manière dont désormais on va gouverner les projets. Et dont finalement on va lancer les projets et les piloter. Et donc ça, pour rejoindre ce que tu dis, on est vraiment dans l'état d'esprit parce que jusqu'à présent on a des procédures dans nos entreprises en fait qui sont assez lourdes en fait pour lancer des projets. On a des choses sont très cadencées. On va avoir le contrôle de gestion, on doit quasiment avoir décrit les gains, on doit avoir calculé nos ROI, etc. Et là où on va retrouver de l'état d'esprit, c'est maintenant on va plus travailler par intention, on va plus travailler par une approche par la valeur. On sent que ça a de la valeur en fait pour le client, ce qu'on va faire, le projet qu'on veut faire. Donc on va plutôt travailler sur les indicateurs de valeur et puis dire quelle valeur on va aller chercher. Et on va vouloir aller très très vite en production pour voir si les hypothèses qu'on a prises sont les bonnes. Jusqu'à présent, quand on est dans des cycles en V, en fait, c'est très très long de construire le projet, de l'étudier, et puis une fois qu'on l'a lancé, en fait, qui est un processus très long, on veut surtout pas l'arrêter. Et il arrive très tard, et puis ça nous est arrivé, on se banane parce qu'on arrive et on n'est plus au rendez-vous de ça. Dans SAFe, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt de se dire, On sent qu'il y a de la valeur à aller chercher ici, et puis bah, on le démontre. Hein. Il ne s'agit pas non plus de partir la fleur au fusil. On a des inducteurs de valeur, on a beaucoup de data qui viennent alimenter tout ça. Mais très rapidement, on pose un MVP en production, enfin un minimum valuable product, et on va essayer de démontrer que les intuitions qu'on avait sont les bonnes. Et ça exige, tu parlais de posture, vraiment une posture nouvelle dans les équipes, ça c'est certain. Mais ça exige aussi une posture nouvelle pour les dirigeants, en fait, pour ceux qui décident. Et ça, c'est quelque chose de très neuf. Et nous, on voit dans le déploiement de CEF, c'est peut-être là où il y a le plus de difficultés, en fait.
Et cette posture, ce mindset, c'est quoi? Est-ce que ça a à voir avec accepter de fonctionner avec maintenant avec de l'imparfait versus planifier, contrôler? C'est quoi c'est de répondre maintenant dans le présent? Centrer plus sur le court terme que sur le long terme, c'est quoi le
genre? Alors, sur SAFE, effectivement, c'est un peu plus long terme que du Scrum tout court, au final, puisqu'on demande quand même à avoir une visibilité sur 1, 2, voire 3 incréments, ce qui correspond à 3, 6, 9 mois, mais pas forcément au-delà. Après, effectivement, il y a quand même aussi, et c'est peut-être ce qui correspond aussi à la gouvernance adaptative, il y a quand même une raison d'être. Qui est extrêmement important et qui est le ciment, en fait. Alors, il y a une raison d'être au niveau de la chaîne de valeur, et ensuite, il y a plusieurs trains dans une chaîne de valeur. Et il peut y avoir aussi de l'agilité unitaire, voire du cycle en V dans une même chaîne de valeur. Donc, c'est aussi tout cet écosystème-là différent qu'il va falloir gérer. Alors, il y a quand même de la planification. Pour pouvoir donner une visibilité, et comme un train, c'est quelque chose de pérenne dans le temps, il faut pouvoir alimenter les équipes. Et on parle plus, alors après c'est un axe nous qu'on a pris, on parle plus de projet, on parle de produit. Donc on est plutôt axé produit et finalement donc client final.
Ok.
Ouais, et Michael, je pense que si pour revenir enfin sur ce que tu disais sur est-ce qu'on est plus dans du planifié contrôlé, on est évidemment dans du sentir ajusté, hein, c'est-à-dire on est vraiment dans on a une intention et plutôt on a une intuition et on va essayer de démontrer sur le terrain par de la livraison et en recueillant du feedback client qu'on va dans le bon sens. Donc on est plus là-dedans. On reste en fait sur des sujets où on adresse des sujets complexes et non pas des sujets compliqués. Donc, on est vraiment dans ces postures-là. Et c'est ça, peut-être, qui change énormément pour des organisations comme les nôtres. C'est-à-dire qu'on vient plutôt, nous, d'un monde où on étudie et on établit le plan. Et puis ensuite, on l'exécute et on vérifie que le plan s'exécute correctement. Le monde, c'est plus possible. On a des clients, en fait, qui sont très, très complexes. Et donc, ça nécessite vraiment de leur mettre les produits entre les mains pour savoir ce qu'ils en pensent. Ouais.
Ouais, c'est ça. OK. Merci. Et du coup, ça fait le lien parce qu'on est en train d'aborder progressivement ce changement de mindset, le côté sentir ajusté versus planifier contrôler, le côté aussi aborder la complexité, donc pas vouloir faire du parfait maintenant, mais plutôt avancer par. Enfin, tu parlais de minimum viable product, donc plutôt avancer avec un petit pas que par des grands plans. Comment est-ce que, du coup, vous qui vous connaissez les deux approches, gouvernance adaptative et SAFE, comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Quelle est la complémentarité en fait des deux? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, sur la complémentarité des deux, déjà, il y a quand même des outils dans la gouvernance adaptative qui sont de toute façon transposables dans SAFE. Alors, typiquement, pour être précise, le consentement. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour prendre des décisions plus rapidement. Dans les rôles et les redevabilités, aujourd'hui, ça, il fait très normé là-dessus aussi, et c'est extrêmement important. Et moi, j'anime des ateliers sur les rôles et les redevabilités dans SAFE, parce que même si c'est connu, même si ça fait partie, je dirais, de la théorie de SAFE, on voit qu'il y a un temps d'adaptation. Et avant de l'assimiler, il faut y repasser plusieurs fois. Et des petites piqûres de rappel sont quand même nécessaires. Et donc, effectivement, les rôles et redevabilités entre un product manager, un RTE ou le système architecte, qui sont les trois rôles de piliers d'un train, c'est important. Mais après, il y a aussi le rôle du product owner, parce qu'il est, voilà, au niveau de son équipe, c'est lui qui va écrire finalement les user stories. Et puis, les Scrum Masters qui sont aussi le maillon, puisqu'après, notamment dans les réunions de Scrum Master Scrum, il y a une discussion entre le RTE et l'ensemble des Scrum Masters. Donc, il y a des réunions qui pourraient même basculer complètement en gouvernance adaptative, notamment tout ce qui est ce qu'on appelle les tensions, l'écart entre ce que je vise, qui pourrait ou devrait être. C'est intéressant de remettre ça, puisque il ne faut pas oublier que l'agilité, ce qui est important, c'est les interactions entre les individus. Et on est quand même un peu au cœur de une tension, c'est quand même un peu le cœur.
Et donc, pour être précis, dans les réunions d'équipe agile, on traite les tensions ou c'est quelque chose qui est unique à la GA? Il me semblait qu'on traitait les cailloux dans les équipes agiles.
Alors, disons que moi, comme je suis très comment dire ça, je suis peut-être imbibée même de la gouvernance adaptative, j'ai tendance à avoir ce réflexe là. Mais de quoi as-tu besoin? Pour inverser un peu, parce que notamment avec le rôle de RTE, comme c'est un servant leader, tout le monde croit qu'il a une baguette magique et qu'il sait tout régler, et c'est pas le cas, hein. Et lui-même, il a son propre backlog aussi de priorité. Donc, ce qui fait qu'il faut aussi autonomiser les gens, les mettre face à leurs propres responsabilités. Et ça, c'est très, très similaire à la gouvernance adaptative, par exemple.
D'accord. Et du coup, ce que j'ai entendu aussi, c'est la notion de… Il y a certains rôles qui sont là dans SAFE prédéterminés.
Tout à fait.
Qui ont des accountabilities, des redevabilités précises. Oui. Là où en GA, là où en GA, c'est chacun a un rôle en fait, pas seulement certaines personnes. C'est là, il y a peut-être aussi une complémentarité dans cette notion. Mais la notion de rôle est la même. Simplement, elle est précisée pour certains seulement.
C'est ça.
Est-ce que ça, c'est un point important?
C'est-à-dire que RTE, système architecte, product manager, PO, epic owner sont des choses qui sont précisées dans SAFE. Bon, après, un développeur aussi, parce que on sait ce qu'on attend d'un développeur, ce qui finalement répond à la majorité quand même des rôles dans SAFE.
D'accord.
Après, effectivement, il y a notamment par rapport à la structure de Orange, il y a des rôles qui ne sont pas SAFE, mais qui ont été créés parce que soit les sujets sont lourds ou impactants. Et donc, il y a des accompagnateurs de l'epic owner, par exemple. Et nous avons aussi des business owners, c'est eux qui donnent quand même la valeur et puis la vision moyen-long terme.
D'accord. Donc, en fait, c'est dans une approche, ce que je comprends, c'est que dans une approche SAFE, en fait, puisqu'on développe un produit, on est dans une logique de développement de produit.
Oui.
Et ces logiques-là, elles s'appuient sur des rôles précis qui ont certaines responsabilités, certaines redevabilités, sur des périmètres clairs, que du coup, ça permet à chacun de savoir qui fait quoi et de fonctionner ensemble. Mais une équipe qui n'est pas sur ce type de, sur un produit ou qui n'est pas dans cette configuration-là, peut quand même garder, a intérêt à garder l'idée des rôles précis. C'est pas cela, en l'occurrence, mais clarifier ses rôles. Et le bénéfice, c'est des rôles étant clairs, chacun sait qui attend de quoi, de qui. Et ça, ça donne de la, ça permet de, c'est un des leviers d'agilité en fait.
Oui, tout à fait. Et là, je vois sur, par exemple, sur un type de réunion qui est plutôt organisé par ce qu'on appelle nos business owners. En fait, ils ont monté cette réunion-là qui était un aiguillage des sujets en fait, au niveau de l'identité au global. Ils ont créé des rôles à l'intérieur avec des redevabilités. Donc ça n'existe pas dans SAFE. Mais par contre, ils ont ressenti le besoin de le mettre en place pour clarifier en fait quel est celui qui organise l'agenda, quel est celui qui facilite la réunion, quel est le secrétaire.
D'accord.
Ce qui permet d'être beaucoup plus fluide en fait.
Donc la GA permet d'aller un cran plus loin avec SAFE pour préciser, au-delà du format préexistant, de préciser en fonction des besoins. Encore plus loin, si nécessaire, le qui fait quoi sur différents sujets quand ça.
Oui, tout à fait.
Ouais. Pour compléter, moi j'avais deux points. C'est, je pense que la GA permet non seulement d'aller un cran plus loin, mais presque d'humaniser la machine. Il faut voir que SAFe, en fait, ça vient du Lean, hein, tout ça. On est presque dans un modèle très industriel et tout est décrit et de manière assez précise. Or, la réalité de l'humain, en fait, et la réalité de chaque entreprise qui est différente, elle doit être ajustée. Or, moi, je me rends compte, hein, pour avoir implémenté plusieurs trains SAFe, que quand on essaie de mettre ça by the book, ben, c'est faire rentrer des ronds dans des carrés. Et bien souvent, ça se traduit par de la souffrance au travail, etc. Je pense que ce qui est vraiment pourrait être un apport plus fort de la GA si on l'implémentait en fait comme vraiment caisse à ajuster en fait le modèle SAFe, c'est de se dire bah finalement tout ça part d'un principe que les équipes sont quand même auto-organisées, que les équipes doivent se parler pour traiter ce dont elles ont besoin, pour s'organiser par rapport à ce dont elles doivent faire face. Et non pas pour appliquer un modèle un petit peu, des fois, ouais, on peut le dire, un peu rigide. Hein,
un peu rigide.
Et donc ça, je pense que la gouvernance adaptative pourrait être un bon moyen de se dire, ah ben voilà, dans le modèle, on nous dit que le PO, il fait ça, ça, ça et ça, c'est génial. Par contre, nous, on n'a pas besoin en fait qu'il fasse ça parce que peut-être que c'est l'équipe de dev qui peut le faire parce qu'elle a les compétences. Et là, localement, on peut le faire. Et là, la gouvernance adaptative permettrait en fait de poser ce sujet en fait au milieu de la table, de traiter par le biais d'une tension et d'avoir les idées pour faire modifier les redevabilités de chacun. Alors qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'on est des fois un peu trop, enfin toi qui le vis, Fabienne, certainement dans les équipes, des fois un peu rigide en se disant ouais mais le modèle il dit ça, etc. Et puis ça crée plus de tension cette fois-ci humaine dans les équipes plutôt que de résoudre des choses. Donc la clarification c'est bien, mais dans la gouvernance adaptative, on a la clarification, mais la capacité aussi à s'ajuster sans arrêt.
Et ça, je trouve. C'est pas adaptatif en fait. Oh. Il permet d'être adaptatif sur la production, mais pas adaptatif sur le cadre. Là où la GA permet d'être sur les deux finalement.
Ouais. Tout à fait. Et c'est là où il faut peut-être un bon équilibre entre les deux et mettre quelques ingrédients de l'un dans l'autre, etc. Pour être stable. Quoi.
Je complète et encore plus particulièrement quand on est dans la phase de transformation, parce que dans la phase de transformation, évidemment, les rôles sont des rôles nouveaux, donc on a intérêt à se comprendre. Et dans la phase de transformation, on a besoin de reclarifier et puis d'adapter ça au vocabulaire de son entreprise. Donc, je pense que c'est clé, c'est encore peut-être plus clé quand on est dans une phase de transformation.
C'est vrai que moi, sur SAFe, j'ai bien rappelé, la France a décidé de déployer SAFe, donc c'est une méthode, c'est un cadre. Il ne faut pas oublier que les méthodes, les cadres, les outils sont à la disposition des gens et pas l'inverse. Donc il ne faut pas, c'est ce que disait Bruno, il ne faut pas faire rentrer les carrés dans des ronds. Non, ça doit nous faciliter la vie et pas nous la compliquer. Donc pour l'instant, c'est bien aussi de revenir sur ce cadre, sur ce sujet-là.
Les deux peuvent bénéficier de l'un de l'autre. On a entendu que la GA pouvait amener finalement une flexibilité sur le cadre de SAFe. Qu'est-ce que SAFe pourrait amener à la GA?
Il y a des cérémonies, des événements particuliers qui sont intéressants dans SAFe. Parce que finalement, alors moi, pour le coup, je suis arrivée RTE le 1er mars, et puis le 1er mars, on nous a dit qu'il n'y a plus aucun déplacement possible. Et donc, j'avais mon PI le jour suivant, donc, ce qui est quand même compliqué. Alors, le PI, c'est le programme incrément. Donc, ce qui définit les 3 mois de travail à venir, en fait, pour l'ensemble des équipes. Et donc, c'est une réunion, typiquement, qu'on fait tous ensemble sur le même lieu physique.
La fameuse réunion.
Et on construit, en fait, à la fois les risques, les dépendances, tous ensemble.
D'accord.
Et cette cérémonie-là, cet événement-là, il est vraiment apprécié des équipes. Et il est incontournable, parce que c'est là où ça cimente les équipes, c'est là où il y a du lien, c'est là où il y a un partage aussi de la vision et de la compréhension, et parfois des dépendances entre les équipes. Et donc, il est indispensable. Après, effectivement, là, nous, on a dû le faire sans se voir physiquement. Donc, on a mis en place des outils comme Zoom, par exemple, pour pallier à ça. Mais on voit bien que ça n'a pas exactement la même valeur que si on avait été tous présents au même endroit. Donc ça, par exemple, la gouvernance adaptative, moi, je sais que quand je la portais, j'exigeais, alors, par contre, c'était un peu j'étais exigeante là-dessus, j'ai une réunion de gouvernance ou une réunion de stratégie opérationnelle, elle est en physique. Il n'y a pas de pont téléphonique. Parce que justement, c'est là où on crée le lien et c'est là où il faut pouvoir échanger réellement. Derrière un téléphone, c'est toujours un peu plus compliqué.
Ouais. On est dans cette période un peu particulière en ce moment avec le coronavirus, où on est tous bloqués à la maison. Donc, on est aussi face à l'obligation d'arriver à travailler à distance. Mais toi, tu dis, c'est possible, mais il y a quand même des moments où c'est indispensable de se retrouver physiquement. Et peut-être qu'on peut… Parce que probablement, on va vers des modes de travail où de plus en plus souvent, on est à distance et on est habitué et on est fluide à distance. Mais malgré tout, il faut garder un équilibre avec les moments où on se voit pour, retravailler sur le lien, des compréhensions, clarifier, recréer l'équipe.
Okay. Et c'est vrai que dans l'enseigne, il y a quand même pas mal de rituels hebdomadaires qui permettent de synchroniser les équipes où il y a au moins la moitié du train à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 50 personnes autour de la table, ce qui n'est pas gérable en gouvernance adaptative, mais qui par contre est indispensable en SAFE.
D'accord. Et ces réunions, par exemple, à 50 personnes hebdomadaires, elles consistent à faire quoi ?
À synchroniser les gens sur, je dirais, leur avancement dans le travail, leur dépendance et leur risque. Par exemple, donc ça s'appelle la RT Sync, donc synchronisation. Il y a le Scrum de Scrum aussi, où c'est que les Scrum Masters qui se réunissent. Et là, moi, je suis en train de plutôt mettre SAFE au bénéfice des personnes et pas l'inverse. Et donc, de refondre un peu la réunion pour intéresser aussi les Scrum et puis les pousser à faire une communauté de pratique. Et c'est là où, ben, justement, je mets un petit peu de GA dedans, de quoi avez-vous besoin, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des délits de la PMT. La PMT, c'est la Product Management Team. Donc, c'est le trio, en fait. Système architecte, PM et RTE. Il y a les délits PO. Enfin, voilà, il y a certains rituels. C'est beaucoup mieux si c'est autour d'une table, si c'est juste au téléphone. Et à minima, bah, se voir, c'est important. Et là, ça rejoint complètement les valeurs du manifeste agile.
Super.
Ouais, par rapport à la
question, là-dessus, comment les deux fonctionnent ensemble ou sont complémentaires ?
Ouais, par rapport à la question sur qu'est-ce qui manque à la GA et en quoi ça pourrait apporter des choses. Alors, plus particulièrement sur les programmes, hein, moins sur les organisations, parce que dans les organisations, on est plutôt, pour la partie organisation, c'est plutôt une machine à produire des décisions. Mais sur la partie programme, en général, quand on lance un programme, on a bien souvent, en fait, finalement, des livrables à produire, des choses qui doivent sortir de ce programme. Un patron, s'il dit, je mets 10 personnes, en fait, à plein temps à travailler sur une problématique, améliorez-moi l'expérience client broadband, par exemple, il va s'attendre à ce que derrière, on lui parle de livrables, ce qu'on lui parle d'une roadmap, ce qu'on lui parle d'une feuille de route, de quelque chose à produire. Et ça, dans la gouvernance adaptative, on parle assez peu de ça, finalement, les livrables, c'est quoi, comment on les matérialise, comment on dit ce qu'on va faire. Et on le retrouve un petit peu parce que quand on fait des réunions de stratégie opérationnelle, on a la notion de board avec la dépendance qu'on fait entre les rôles, où on dit, dans les 6 mois à venir, ce que chacun des rôles, en fait, cherche à produire, et puis voilà quelles vont être les dépendances entre les rôles. Et là, je pense que dans la boîte à outils SAFE, on trouve des choses qui permettraient de beaucoup mieux matérialiser ça. Et plutôt que de matérialiser autour de rôles avec leurs dépendances entre eux, plutôt de parler de quels sont les livrables qu'on a à produire. Là aussi, par intention, il ne s'agit pas d'être dans du planifié, contrôlé et tout ça sur un truc très très précis, mais de dire, grosso modo, quelle est notre roadmap, en fait, qu'on a à produire sur les 6 mois à venir. Et comment on matérialise ça et quelles sont les dépendances entre livrables intermédiaires qu'on doit faire. Et puis après, de se poser seulement la question, en fait, by the way, qui a à produire ces livrables intermédiaires, en fait, pour que le produit final, on réussisse à le faire. Et je pense que SAFE, du coup, qui est très orienté produit, permettrait effectivement à la gouvernance adaptative, quand elle est sur des programmes, en fait, de mieux matérialiser sa production. Et ça me paraît quelque chose qui manque un petit peu parce que, moi je vois souvent en fait mes patrons qui viennent me voir en disant bon bah ok c'est super, le programme il a l'air de bien marcher, par contre on sait absolument pas ce qui sort, ce qui s'apprête à sortir, etc. quoi. Et ils sont bien souvent inquiets de ça, et quand on leur dit bah, allez voir les KPI de l'équipe, les KPI, on se rend compte que c'est plutôt délaissé, c'est plutôt d'ailleurs des KPI en fait qui sont trop centrés sur l'équipe et assez peu dans je vous donne de la transparence sur ce qu'on est en train de faire et de la lisibilité en fait sur ce qu'on s'apprête à produire. Donc voilà, je pense que Seth est bien outillé là-dessus.
Ouais, merci. Du coup, inversement, vous l'avez du coup, on a pris du temps là sur la notion safe vers la GA, GA vers safe. Vous l'avez dit un petit peu sur le côté humain. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires à dire sur le côté adaptatif et plus humain? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez rajouter sur qu'est-ce que la GA pourrait apporter à Safe? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à dire?
Alors moi, ce que ça m'apporte, c'est parce que quelque part la gouvernance adaptative, il y a aussi une rigueur quand même dans les réunions, dans la tenue des réunions, et les réunions ne mélangent pas tout dans une seule réunion. Donc ça permet de vraiment bien trier et pas tout mélanger comme on a l'habitude de faire dans une réunion standard. Donc ça, je pense que c'est intéressant à reporter dans chacun des événements liés à SAFE. C'est-à-dire que voilà, il y a un ordre du jour qui est comme ça. Moi, par exemple, quand je fais mon daily PMT, je leur dis, mais non, là, on n'est pas en train de faire un daily, on est en train de refaire la terre. Donc, ça permet justement de restructurer un petit peu et de savoir, on a dû refondre notre ART Sync et notre Scrum de Scrum, parce que justement, on mélangeait un peu tout dedans, et c'était pas, donc ça séparait les variables, et c'était très bien de séparer les variables. C'est-à-dire qu'une réunion, elle a un objectif quand même, et il ne faut pas l'oublier. Okay. Donc ça, la GA, là-dessus, elle est quand même très structurée, ouais. Tout en étant assez flexible sur le contenu.
Ok.
Ouais, moi, sur la partie sur l'humain, ce qui est clair, c'est que le traitement des tensions du système, c'est quelque chose qui permet justement de débloquer quoi en fait hein. Et bien souvent dans tous les trains safe que j'ai pu lancer, les tensions ont tendance à s'accumuler, on se retrouve avec des tensions du système qui deviennent assez rapidement des tensions des individus. Donc je trouve que le traitement des tensions c'est un formidable justement système à détendre. Donc du coup il faut en injecter beaucoup plus et en masse quasiment dans toutes les réunions de manière à bien capter en fait tous ces petits écarts qu'il y a sur le terrain et de pouvoir les traiter très très rapidement pas quand ces tensions sont devenues des choses énormes, quand c'est encore traitable. Ça c'est le premier point. Je pense que cette approche par tension, c'est-à-dire être capable de donner les écarts et le faire en tant que rôle et non pas en tant que personne, ça permet aussi peut-être entre guillemets hein, d'éduquer les gens à être beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on appelle les rétrospectives au sens de l'agile, hein, parce que c'est assez compliqué les rétrospectives, c'est peut-être l'exercice le plus difficile, hein, parce que c'est l'exercice en fait où on se dit les choses, hein, on a tendance on est habitué à dire dans l'agilité, ben finalement dans l'action c'est de quoi as-tu besoin, par contre dans la rétrospective, ben qu'est-ce que j'attendais de toi quoi en fait, donc du coup on est un peu plus rentre dedans. Et le fait d'avoir l'habitude d'exprimer ses tensions, de dire bah voilà moi c'est mon rôle qui exprime les écarts, ça permet aussi pour l'humain de s'habituer à dire les choses. J'ai droit à l'erreur qui me vient en tête, le droit à se dire les choses un peu clairement, quoi, le côté dur avec les idées et puis doux avec les personnes. Enfin voilà tout ça me vient en tête. Et voilà sur l'humain, je pense que ça doit permettre de bien progresser sur ce sujet-là.
Il y a du feedback aussi entre les personnes, j'imagine.
Tout à fait. Ouais. Ça permet la transparence aussi, qui est quand même un des éléments clés de l'agilité, hein. Et de savoir que l'on peut dire qu'on a un problème, qu'on a un besoin, qu'on a une attente au fil de l'eau, ça permet aussi de mettre les gens un peu plus à l'aise et de détendre l'atmosphère, hein, clairement.
Merci. Du coup, dernière question pour les gens qui sont sur ces questions comme vous ou de Safe ou de Jia ou des deux, qu'est-ce que vous donneriez comme pour, à des personnes qui déploient Safe et qui se posent la question d'intégrer la GA, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil des gens qui connaissent pas encore la gouvernance adaptative mais qui font du Safe et qui se disent tiens peut-être qu'il y a un truc pour nous là-dedans. Ce serait quoi les conseils à leur donner s'ils voulaient aller les choses à faire, à pas faire, les pièges à éviter
Alors moi j'ai juste un conseil, mais parce que j'ai vu les deux méthodes et il n'y en a qu'une qui a fonctionné, c'est de le faire sur de la base de volontariat, c'est-à-dire ne pas l'imposer. Parce que déjà, par exemple, quand une entreprise passe à Safe, elle l'impose. Et donc, on demande aux équipes de s'adapter à une nouvelle méthode de travail, à une nouvelle façon de faire, à des synchronisations différentes, etc. Et ça perturbe. Toute modification perturbe tout le monde, même celui qui aime bien le changement, il est quand même perturbé. Il y a un temps d'adaptation. Donc c'est, et puis il y a peut-être plusieurs façons de l'aborder. C'est pas mettre toute la GA d'un coup. On peut y aller par petites touches, en upgradant quelque part tous les ingrédients de la gouvernance adaptative, sans arriver avec tout le paquet. Je te fais une réunion opérationnelle, une stratégie, une gouvernance, une régulation. Pas forcément besoin de tout ça au début. Par contre, comprendre bien la mécanique des tensions qui est quand même le nerf de la guerre en gouvernance adaptative, mais finalement le nerf de la guerre de tous les produits et enfin de toutes les personnes qui travaillent ensemble en fait pour un même but, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, et les rôles et redevabilités qui me semblent indispensables.
Bruno, toi tu dirais quoi? Ce serait quoi ton conseil?
Moi mon conseil c'est j'utiliserai, comme Safe est un cadre, et comme l'a dit Fabienne, est quand même quelque chose qui doit partir de l'entreprise, parce que c'est pas une initiative isolée qu'on peut avoir, donc partir de ce cadre-là, et puis de se dire, quand j'essaie de le mettre en place, d'avoir une approche plutôt pragmatique sur la gouvernance adaptative, et de se dire, finalement, à certains endroits, j'ai des sujets à régler, et je sens que l'utilisation de la gouvernance adaptative me permettrait de régler en fait des problèmes que je rencontre. Et donc l'idée de se dire j'ai un truc by the way, si j'allais puiser en fait dans les outils de la gouvernance adaptative là, franchement ça me rendrait bien meilleur. Et d'avoir toujours cette approche là parce qu'après tout, si on a une réunion de Scrum qui se passe très très bien, s'il n'y a pas de tension à traiter parce que le système est ce serait très étonnant, mais le système pas la peine en fait d'en mettre à tout prix quoi. Par contre, on peut il y a un étage de CEP dont on n'a pas parlé. On peut avoir des programmes de type qui sont censés produire des épiques, et puis on sent qu'à certains endroits en fait ça fonctionne pas bien. Se dire à cet endroit-là, pourquoi pas mettre de la gouvernance adaptative, et ça nous permettrait en fait d'avancer. Donc vraiment avoir une approche plutôt pragmatique et de se dire j'y vais, là, j'en injecte parce que, effectivement, j'ai des sujets, en fait, à régler.
Ok. Super.
Et puis, la gouvernance adaptative, elle peut être, notamment par rapport à Safe, le rôle du manager, il est quand même un petit peu mis à mal dans le cadre Safe. Et c'est pas un rôle en tant que tel dans Safe. Hein. La gouvernance adaptative, elle permettrait peut-être aussi de clarifier ce rôle-là qui est quand même indispensable dans une entreprise, dans les grandes entreprises, et ça permettrait de permettre à tout le monde, et ça rejoint le côté humain, de tout le monde trouver sa place.
Y compris les managers.
Juste place, y compris les managers.
Ok. Super. Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez rajouter, un point qu'on n'a pas abordé, qui vous paraît important de souligner, d'ajouter? Sinon, un mot de conclusion, on en reste.
Oui, il y a un truc qu'il faudrait rajouter quand même, c'est avant de pouvoir. Enfin, donc, Safe, c'est déjà une façon de travailler différente. La gouvernance adaptative, c'est un mindset surtout, enfin, en tout cas pour moi. Et pour mélanger les deux, il faut quand même avoir quelques personnes promotrices pour que ça se passe bien. Sinon, ça ne peut pas avoir lieu, en fait, cette alchimie-là.
D'accord. C'est important de. Le facteur humain là et des personnes.
Oui.
Et, ouais. Okay.
Ça peut tenir à que quelques personnes, mais il faut qu'il y ait au moins ces quelques personnes-là qui le portent réellement.
Ok. Toi, Bruno, tu veux dire un mot un dernier mot
un dernier mot, c'est je pense que 1 plus 1, ça fait 3.
Comme quoi, on nous a dit que des bêtises à l'école. Hein.
Non, non, mais c'est bien la combinaison des deux là qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin.
Oui.
Ah, c'est chouette.
Et il ne faut pas oublier que ça soit Safe, Scrum, etc. Ce qui est important, c'est d'abord les personnes derrière. Parce que c'est elles qui produisent les valeurs. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Ouais, merci. Derrière, il y a la coach qui parle.
Oui. Non, mais bah, j'en suis convaincue. Donc, voilà, enfin, on ne fait rien sans les gens.
Ouais. Ce n'est pas les méthodes, c'est les gens qui font. Et les cadres qu'on se donne, c'est des...
C'est à leur...
qui nous aident à progresser ensemble, à gérer ces projets complexes, cet environnement complexe qui nous donne du fil à retordre.
Tout à fait.
Ouais. Ok. Bah, un immense merci à vous deux. Et puis, on vous retrouve peut-être dans de prochains podcasts.
D'accord.
Peut-être on fera d'autres podcasts sur le sujet, on verra. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre ces deux démarches SAFE et gouvernance adaptative. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le livre « La gouvernance adaptative » que j'ai coécrit avec Stéphane Pensivi et Yann Bresson aux éditions Pearson. Merci aussi de mettre vos commentaires dans notre page LinkedIn. À bientôt pour notre prochain épisode. Au revoir.